On est quel jour aujourd'hui?
Bah pourquoi?
Quand ça?
Mais pourquoi?
Où? Quoi ça?
Ah pourquoi?
Promesse de l'aube.
Quand ça?
Radio Panique, 105.4 FM.
Ça?
7h-9h?
Le vendredi aussi.
Des promesses, toujours des promesses.
D'accord.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio, vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique, ce sont les promesses de l'aube et je serai avec vous jusqu'à 9h en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à partir de 8h, nous aurons deux invités à la maison. Il s'agit de Manon Legrand et Camille Wernhardt, journalistes au magazine Axel. Elles viendront nous présenter le hors-série qui est sorti au mois de janvier. C'est un hors-série consacré au féminisme au pluriel et aux multiples manières de faire monde commun. Et nous avons le plaisir d'accueillir Manon Legrand. Bonjour Manon.
Bonjour à tous.
Et Camille Wernhardt. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'être venu chez moi donc pour ces promesses de l'aube à la maison. Et donc vous êtes venues toutes les deux pour nous parler de ce très beau hors-série du magazine Axel, un hors-série qui est consacré au féminisme avec un beau titre, Faire monde commun. Et donc dans ce magazine, il est bien sûr question de cette fameuse égalité. Vous vous posez la question de avec qui être égaux, entre qui, et des différentes politiques d'égalité qui ont pu être mises en place en Belgique et ailleurs, que ce soit les questions liées à l'hébergement des enfants, le congé parental, les droits sociaux et bien d'autres. Vous abordez également dans ce hors-série la question des instituts qui sont mis en place un peu partout dans le monde et ici en Belgique, il s'agit de l'IEFH, donc l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et vous vous posez la question du rôle de ces institutions. Par ailleurs, bien vous aborder de manière très large la question du corps des femmes, que ce soit à partir de la question obstétricale ou de la réappropriation des corps, de l'autosanté, la question du validisme et des violences qui sont faites aux personnes, aux femmes notamment moins valides. Vous abordez également la question des transformations des corps et des assignations au genre qu'on peut faire et au sexe qu'on peut faire dans nos sociétés. Donc bref, un numéro qui est foisonnant, on va dire, avec plein d'articles intéressants. Je ne sais pas par où commencer. Moi, je l'ai parcouru de manière structurée, on va dire, de la première à la dernière page. Et je trouvais que ça faisait sens, qu'on voyait un peu les différentes questions qui se posaient actuellement, et notamment il y a une partie aussi qui est consacrée aux questions d'hyper-inclusivité selon les termes d'Aude Vidal et à la question de ce qu'est être féministe, de qui peut être féministe et aussi de quels sont les adversaires et les alliés au féminisme. Je ne sais pas si vous voulez commencer par ça ou tout simplement nous expliquer comment est née cette idée de faire ce numéro spécial, ce numéro hors série, sur ce foisonnement des féminismes.
Merci, ça a été une chouette promenade faite par quelqu'un d'autre dans ces hors série qu'on commence tout doucement à connaître par cœur, donc c'est chouette de voir que tu l'as lu et puis comment il t'est venu, donc c'est assez chouette, notamment tout ce que tu racontes sur les corps, qui fait écho à la cover. On est en radio, donc les gens ne voient pas la cover, mais la cover, c'est aussi cette idée de corps dont tu parlais bien, aussi des corps qui sont traversés d'histoire, des corps qui sont traversés des luttes, des corps qui migrent, des corps qui sont pleins de mémoire, des corps arrachés à des territoires et qui en même temps ne forment qu'un, un peu comme des poupées russes. Donc cet enjeu du corps en effet, était essentielle quand on a décidé de faire ce magazine. Mais là, et Camille en parlera, vu que Camille a écrit le super bel article sur l'autosanté et la réappropriation du corps et du pouvoir sur nos corps. Mais la question était, d'où est né ce hors-série ? Alors, en fait, on s'est dit, d'habitude, Axel, c'est un magazine féministe, donc c'est très étrange qu'un magazine féministe fasse un hors-série sur ce qui, normalement, est son ADN et doit croiser tous les articles. On parle de féminisme avec S, hein, c'est aussi dans le titre du hors-série, c'est féminisme au pluriel, bien sûr. On parle de féminisme tout le temps, puisqu'on fait du féminisme. Donc, c'est un sujet qui a été créé un peu en concertation et qu'on m'a proposé. J'étais un petit peu sceptique au début. Et puis, en fait, je me suis dit, waouh, c'est trop bien de pouvoir prendre le temps en 76 pages, de faire un peu un bilan, de se poser, en fait. J'imagine que c'est un peu comme dans le militantisme, enfin, on peut aussi parler de militantisme, la façon dont on fait du journalisme, hein. Mais s'imaginer parfois s'arrêter, se regarder, réfléchir, se retrouver, discuter, faire le bilan pour mieux repartir. Et voilà, et donc tous les enjeux, tous les sujets que tu as présentés, en fait, sont tous des enjeux qui ont un siècle, 50 ans, d'autres qui ont... qui sont plus récents, qui ont 10 ans, mais qui ont des racines, enfin dont les enjeux d'il y a 50 ans peuvent nourrir ces enjeux actuels. Et puis alors, de façon un peu plus méta, on se rend compte que le féminisme demande une remise en question aussi de ce qu'on est, et ce magazine a aussi permis ça, la remise en question de... Bah, moi, pendant toute la coordination, je me suis vraiment... plein de fois interrogée sur moi-même, en tant que femme, journaliste, éduquée, qui a la parole et donc le pouvoir. J'imagine que les autres journalistes se posent aussi cette question. Ça se sent dans la façon dont on écrit, ça se sent dans la façon dont on choisit nos intervenantes. Et évidemment qu'on ne représente pas toutes les femmes. Hein. Il y a évidemment des femmes qui n'ont pas pu être entendues, mais on a quand même essayé de représenter aussi les invisibles. Je ne sais pas si on enchaîne, peut-être Camille peut parler de ton article.
Oui, moi ce que je trouvais, enfin pour rebondir avec ce que tu viens d'évoquer, je trouvais intéressant justement, j'ai eu l'impression qu'il y avait, en tout cas c'est mon opinion, et je suis aussi blanche, valide, éduquée, mais que ça donnait vraiment un aperçu des différents courants, des différents enjeux, des différentes bisbrouilles aussi qu'il peut y avoir parfois entre les féminismes, et qu'il n'y avait pas de tabou, enfin que les questions étaient abordées en disant, ben voilà, il y a ça qui se pose, ces questions-là qui se posent actuellement, et comment on peut, malgré tout ça, faire ce monde commun. Et donc, effectivement, la question du corps, elle traverse... plusieurs articles aussi, que ce soit celui dont Camille va parler, mais aussi toutes les réflexions qui sont menées par Aude Vidal ou par Paul Preciado. Je suis encore à Béatrice, qui se pose justement cette question de savoir comment vivre avec ces assignations, avec ces identités individuelles. Et donc, je trouvais ça intéressant. Mais donc, l'article sur l'autosanté de Camille, justement, part de la base aussi, comment on peut se réapproprier son propre corps.
Oui, et on a aussi rappelé que c'est un enjeu depuis 50 ans dans le féminisme, parce qu'il y a eu un livre fondateur qui est né il y a... un certain temps, qui s'appelle Our Body, Ourselves, qui a été créé collectivement par 12 femmes américaines dans l'idée de se réapproprier le corps et les savoirs autour du corps. Dès le départ, il y avait une critique de la médecine qui s'était appropriée tout le savoir que les femmes pouvaient avoir. Par exemple, avec cette idée que les universités de médecine ont longtemps été réservées aux hommes et donc les femmes n'y avaient pas accès. Aussi, tout le savoir des sages-femmes qui a été un peu... elles ont perdu un peu de leur pouvoir. Et donc, si on en a parlé aujourd'hui, en 2020, c'est qu'il s'est passé quand même plein de choses qui nous permettent de regarder un peu le passé aussi avec des nouveaux yeux, notamment MeToo, qui permet de mieux entendre les femmes quand elles parlent de violence, et donc quand elles parlent de certaines violences qu'elles rencontrent dans les cabinets médicaux. Ça permet aussi, bon, on a parlé pas mal de violences gynécologiques, obstétricales. Donc il y a ça d'un côté, il y a aussi eu le retour de l'écoféminisme avec l'urgence climatique et les crises climatiques qu'on rencontre. Et donc la figure de la sorcière, qui est des sorcières même, qui nous invite de nouveau à regarder le passé et à regarder toutes ces guérisseuses qui avaient tout un savoir qu'on a perdu avec notamment la chasse aux sorcières. Donc voilà, il y a ces deux choses qui sont là maintenant, qui sont là en 2019-2020, depuis quelques années, et donc qui nous invitent de nouveau à nous questionner sur nos corps, sur qu'est-ce qu'on sait de nos corps. Il y a eu aussi tout un mouvement par rapport au clitoris, à la vulve et au vagin, chez les jeunes féministes notamment, pour dire ben on n'a même plus les mots pour parler de nos corps. On dit vagin, mais en fait on parle de la vulve. Donc le clitoris, on pense que c'est un pénis quand on voit une image. Enfin, on sait même pas qu'on a ça à l'intérieur de nous. On sait même pas qu'il fait entre 8 et 10 cm. Donc voilà, il y a plein de choses qui reviennent par rapport à cette réappropriation qui est très intéressante. Et donc l'auto-santé, pour revenir vraiment au corps de l'article, c'est des ateliers notamment où les femmes vont faire santé ensemble, avec aussi une critique de la médecine, en tout cas une réflexion sur la médecine qui est très individuelle. On va chez le médecin toute seule, on est face au médecin, à la médecin. Et donc l'idée, c'est de faire médecine collectivement. Et aussi l'idée, c'est pas de dire n'allez plus jamais chez le médecin. Évidemment que les médecins sont utiles, qu'on a besoin d'eux et d'elles. Mais peut-être qu'il y a moyen de réfléchir à faire ça différemment. Par exemple, aller chez le médecin, et par exemple, on nous annonce qu'on a une maladie, et puis pouvoir aller dans un groupe d'auto-santé et en parler avec d'autres femmes, voir qu'est-ce que je veux faire, prendre le temps, ne pas se dire tout de suite, sauf s'il y a une urgence très grave, hein, mais prendre le temps de réfléchir et de se dire, bon, comment je veux faire santé, c'est mon corps, qu'est-ce que je veux faire avec ça. Et c'est ça aussi l'auto-santé, c'est pas uniquement... Et c'est aussi ça, mais apprendre à se palper, à connaître son corps, à découvrir le col de son utérus, par exemple, avec un miroir, c'est ça aussi. Mais c'est aussi faire santé collectivement. Et ça, c'est important de le dire aussi.
Et il y a en effet, dans ce que tu dis, moi, ça me fait penser à une phrase qu'une femme, une intervenante de ton article, pardon, c'est le matin, on se réveille, te dit, c'est... interroger la médecine d'aujourd'hui, ça n'est pas être contre les médecins, c'est interroger les logiques néolibérales. Et ça fait vraiment écho, cet article sur l'auto-santé, au collectif santé en lutte et à l'actualité. L'hôpital public exige des conditions de pratique comme ces ateliers ici en exigent aussi, et qui seront bénéfiques aux femmes et à toutes et tous. Donc ça fait vraiment écho à la lutte actuelle de ce collectif de soignantes et de soignants.
Oui, aussi, il y a un autre article qui évoque cette initiative de deux médecins, enfin deux doctoresses, à Mons, je crois, si je me rappelle bien, qui justement prônent cette médecine bienveillante et qui prônent justement de remettre de la chaleur aussi dans les relations entre patients et médecins, et que justement, comme vous le disiez, c'est pas dire les médecins on n'en veut plus, on va s'auto-soigner en permanence, mais c'est justement se dire comment on peut renouer le lien qui est tissé, et c'est le cas, je pense, aussi avec quand on fait appel à des sages-femmes plutôt qu'un gynéco. Et donc c'est cette figure du savoir désincarné par rapport à un savoir vivant et chaud que les femmes, mais aussi les hommes, peuvent avoir par rapport à leur corps.
Et c'est dans un hôpital public, c'est à Mons, en effet. Et donc voilà, c'était important. C'est pas réservé qu'à... Enfin, ça ne devrait pas être réservé qu'à une catégorie de femmes ou de parents, ce concept de bienveillance obstétricale.
Oui. Et justement, est-ce que ça pose la question, enfin, par rapport au collectif Santé en lutte, qui lutte justement pour avoir plus de moyens, pour ça pose aussi cette question des politiques d'austérité qui retirent des moyens aussi, tout ce qui fait la bienveillance de la société en général, et donc qui empêche les hôpitaux de pouvoir ralentir, de ne pas traiter les gens à la chaîne. Enfin, là, récemment, j'ai dû fréquenter un hôpital, un nouvel hôpital ici qui n'est pas vraiment un hôpital public. Et on se rend compte en fait que tous les services d'accueil sont au bout du bâtiment et que les premières choses qu'on voit, c'est les magasins. C'est la pharmacie, enfin c'est utile, hein, la pharmacie, le bandagiste, le restaurant, le magasin de cadeaux, de fleurs. Et donc franchement, on arrive dans cet hôpital et pour avoir la moindre personne qui nous donne une information, donc on ne parle même pas du service en tant que tel, mais il faut aller au bout de l'hôpital et c'est super mal indiqué. Mais par contre, tout ce qui est commercial, c'est bien, bien visible et du coup, ça pose ces questions-là aussi de qu'est-ce que l'austérité aussi et ces politiques-là font aux femmes. Et c'est une question aussi qui est en filigrane de votre magazine aussi, du hors-série, de justement l'impact de toutes ces politiques et comment elles se confrontent aux politiques à la fois d'égalité et à la réalité économique qui affecte les institutions publiques et les femmes dans leur quotidien. J'ai complètement dévié.
Pas tout à fait. Hein. Oui, mais si on est toujours dans le corps et qu'on parle de corps marchandisé, peut-être aussi du coup un tout petit mot, hein, mais sur l'interview de Paul B. Preciado, qui aborde aussi ça, qui parle de technopatriarcat. Et donc, c'est comme le disait Camille, une perte de pouvoir sur nos corps. Alors lui, il ne parle pas spécifiquement du corps féminin, hein, mais il explique que le corps est entré dans un rapport de soumission aux nouvelles technologies, à la médecine, aux techniques de reproduction. C'est une interview qui est super intéressante aussi, que nos corps sont surveillés, le corps trans, le corps des migrants est traqué, surveillé, est considéré par les médecins seulement comme une somme d'organes, que les femmes sont réduites à un utérus. C'est une interview beaucoup plus, oserais-je dire, perchée, en tout cas un peu plus analytique, mais qui permet aussi de dénouer certains enjeux présents et nous projeter un petit peu dans un futur pas si lointain, un futur où, comme l'espère Paul B. Preciado, on ne pensera plus en termes de binarité. Donc c'est tout le volet question trans, qui est un petit peu nuancé ensuite par Aude Vidal, qui elle, rebondissant un peu là-dessus, dit « Ok, il faut interroger la binarité, très bien, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on est né assigné homme et né assigné femme ?» Mais en questionnant la binarité, comment ne rien céder sur la défense des femmes ? Parce qu'on est quand même des femmes, enfin, il y a quand même des femmes dans des corps de femmes. Donc voilà, c'est du dialogue plus que de la confrontation. Mais ça permet aussi à la lecture de, j'espère, hein, de croiser tout ça et de se poser quelques questions. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Camille.
Mais justement, je trouvais effectivement la confrontation, enfin confrontation, c'est pas une confrontation, mais le fait de pouvoir lire dans un même magazine ces deux positions qui sont finalement, je veux dire, complètement différentes et qui impliquent aussi, et Aude Vidal, elle l'évoque à un certain moment, comment on agit aussi, comment on se rencontre, comment on se réunit, notamment dans les collectifs féministes, comment on inclut ces réflexions-là sur la binarité, sur l'assignation. Et pour revenir à l'interview de Paul B. Preciado, ce qui m'a fort touchée aussi comme réflexion, et c'est la question par rapport justement à la pilule contraceptive et aux hormones, et le fait que ce qui était valorisé, appuyé, presque devenu une injonction pour les femmes que de prendre la pilule contraceptive et de se bourrer aux hormones, en fait, eh bien, était super valorisé, accepté pour les femmes, mais que quelqu'un qui serait dans un processus de changement doit attendre sa majorité avant de pouvoir prendre des hormones, et c'est fort légiféré, alors qu'aujourd'hui, n'importe quelle gamine de 13 ans se voit proposer par les médecins de prendre la pilule sans autre réflexion, et avec sans doute des conséquences qu'on n'a pas encore totalement mesurées aussi.
Et on lui pose pas en effet de diagnostic médical, comme par exemple la dysphorie de genre, ce qu'on ferait à quelqu'un qui veut prendre des hormones.
Et du coup, c'est aussi cette espèce de contrôle, ça reste du contrôle sur les corps. Donc il y a cette injonction, voilà, maintenant ce produit existe et toutes les femmes, c'est ce que vous devez faire, et ça dédouane tous les autres de se préoccuper de ça. Et justement de se préoccuper de ce corps et donc du processus contraceptif.
Et tout ça accompagné toujours, hein, tu le disais, d'un désinvestissement massif dû à l'austérité d'accès à la santé publique. On l'a vu avec le cas récent de ce choc toxique qui a provoqué la mort d'une jeune fille. La vraie question que ça pose, c'est... ça pose plein de questions. Ça pose, je trouve, la question du fameux technopatriarcat dont parle Paul B. Preciado. Pourquoi est-ce qu'on va mettre du chlore dans quelque chose qui ira ensuite dans le vagin des femmes? Et puis alors, pourquoi est-ce que les tampons ne sont pas gratuits? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toujours de poubelles dans les toilettes des écoles primaires et secondaires? Ça touche à tout un ensemble de paramètres et de niveaux qui permettrait d'améliorer la santé des femmes et la vie des femmes.
Oui, justement, ça pose aussi, par rapport à cette question des toilettes et des poubelles dans les toilettes des écoles primaires, ça fait écho à la récente mobilisation des élèves ici dans une école à Forêt. Justement, ça permet aussi d'évoquer certains articles qui sont dans le hors-série, justement, qui mettent en avant la question de cette précarité. Donc ici, c'est la précarité des femmes, mais aussi comment justement toute la société écrase les plus pauvres aussi, et que actuellement les plus pauvres en général ce sont plutôt les femmes, et plutôt les femmes aussi pas les plus blanches d'entre nous on va dire. Et donc comment vous avez articulé aussi ces différents volets qui sont quand même ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant d'avoir les deux positions et de voir que c'est des thématiques qui doivent s'aborder conjointement, et donc qu'on ne peut pas juste être, avoir une réflexion économique sur ce qui touche aux femmes ou une question des corps, mais que tout s'imbrique et se rejoint.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même du coup quelques pages, hein, une petite dizaine de pages sur le socio-économique, enfin la précarité des femmes, qui ouvre le magazine, et ce que tu disais, qui sont les femmes les plus précaires, ce ne sont pas les femmes blanches, et donc Irène Coffert a écrit un article sur les femmes qui restent sur le plancher collant pendant que d'autres brisent le plafond de verre. Ces femmes qui restent sur le plancher collant sont par exemple ces femmes qui s'acquittent des tâches ménagères que les femmes qui ont une grande carrière n'ont plus le temps de faire, ou s'occupent des enfants, etc. Alors c'est pas tant à charge, parce que j'ai utilisé une voix un petit peu peut-être ironique, c'est pas tant faire porter la responsabilité sur les femmes qui ont des grandes carrières, parce que ça interroge aussi le fait que une femme qui a une grande carrière, elle a le droit, après ça dépend dans quel domaine, être big boss du FMI n'est pas spécialement quelque chose que je trouve fantastique, où Irène en parle aussi, être une footballeuse professionnelle et revendiquer le même salaire que les hommes n'a aucun sens, ou être, on peut avoir plein d'exemples, être femme dictatrice, etc. Mais entendons-nous, grande carrière, chouette, dans un, hein, par exemple, une directrice d'hôpital qui va révolutionner les soins en écoutant le collectif Santé en lutte. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, ça n'est pas dénoncer l'existence de femmes sur le plancher collant qui ramassent les éclats du plafond de verre, n'est pas spécialement faire porter toute la responsabilité aux femmes qui ont brisé le plafond de verre. Restons solidaires, c'est aussi dénoncer le manque de services publics suffisants du type accueil de l'enfance, solutions de garde, de soins et d'accompagnement des personnes âgées, tous des services qui permettraient aux femmes d'éviter d'avoir des triples journées. Voilà, et ça c'est une première chose à dire sur l'article. La deuxième chose, c'est de montrer aussi, ça fait partie de l'histoire du féminisme, de l'histoire des femmes. Le féminisme n'a pas toujours représenté tout le monde, et c'est encore un enjeu et une exigence à garder. On en entend souvent, c'est un peu crispant aujourd'hui d'ailleurs, hein, les féministes blanches qui ne bourgeoises, etc. C'est quelque chose qui revient souvent, notamment par exemple, je pense à tout le débat sur la prostitution, les féministes blanches, bourgeoises, puritaines. Enfin, cette étiquette, d'ailleurs, un peu trop vite apposée, je trouve. Mais il n'empêche que les féministes blanches, bourgeoises, doivent se remettre en question et voir comment, en effet, être solidaire plutôt que de prôner une égalité à tout va qui en soi ne touche que leur classe sociale. Et cet article rentre dans cette réflexion-là en interrogeant aussi la possibilité de lutte collective. Je ne sais plus vraiment comment, en quel terme Irène en parle, mais en fait, celles qui ont brisé le plafond de verre ne sont pas spécialement celles qui vont se battre après collectivement pour les autres femmes. Donc voilà. Et elle termine par cette phrase d'un super livre, Féminisme pour les 99%, écrit par... Je n'ai plus les
un
noms.
Un trio.
Les noms en tête, un trio.
En tout cas, Fraser.
Ouais, voilà, Nancy Fraser, une féministe... Cynthia Arruza et voilà. Titi Bhattacharya, qui reviennent notamment sur le cas Sheryl Sandberg, numéro 2 Facebook, qui est un peu à l'instar de Michelle Obama, dit « Allez-y les femmes, c'est possible pour toutes de réussir, enfin méritocratie en plein. » Et ces autrices, elles concluent leur bouquin en disant « Nous n'avons aucun intérêt à briser le plafond de verre si l'immense majorité des femmes continuent d'en nettoyer les éclats. » Donc au niveau de la stratégie féministe, ce plancher collant, on ne peut pas fermer les yeux dessus. Ouais.
Et je trouve que ça questionne aussi l'égalité, ce mot d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc dans un monde patriarcal, capitaliste, raciste, est-ce qu'on veut être les égales et donc arriver aussi à être PDG, à diriger le FMI, à prendre des positions en fait de dominants qui ont été créées pour des dominants, par des dominants? Ou est-ce qu'on veut casser tout ça ou déconstruire tout ça et créer quelque chose d'autre pour tout le monde, en fait, collectivement? Parce que donc on a parlé du fait qu'il y a le corps et qu'il y a les logiques économiques et d'austérité qui passent dans le hors-série, mais je trouve aussi qu'il y a très très fort l'idée du collectif. Le titre d'ailleurs, c'est « Faire monde commun », c'est pas pour rien. Et donc du coup, il y a cette idée-là aussi, est-ce qu'on veut collectivement créer autre chose d'autre ou est-ce qu'on veut rentrer à des places ou à des positions qui sont pas forcément en fait super égalitaires? Donc cette égalité, être l'égal des hommes, voilà, il y a peut-être aussi quelque chose à questionner là, c'est aussi quelque chose qui est fait dans leur série, il y a un article là-dessus.
Et justement, c'est intéressant de voir pourquoi les mouvements féministes historiques, je vais dire, je sais pas comment expliquer ça, ont lutté justement et que que l'étalon, on va dire, ça a toujours été l'homme blanc. Oui. Et donc, c'était toujours en fonction de ça. On a voulu, les femmes ont voulu travailler comme l'homme blanc, elles ont voulu les droits comme l'homme blanc. Et donc, comment justement intégrer dans ce mouvement-là autre chose que des femmes blanches de même classe, et aussi, est-ce que, comme tu le dis, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce que moi, je veux devenir PDG de L'Oréal ? Enfin, je suis...
je crois qu'historiquement, les mouvements féministes étaient des mouvements de libération des femmes, pas des mouvements pour être légales, à l'égal des hommes. Et je trouve que libération, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a... Ça permet de voir les structures oppressives qui sont sur nous. Quand on veut être égal, les hommes aussi peuvent être égaux à nous, en fait. Il y a pas de... On ne voit pas le système de domination. Quand on parle de libération, il y a quand même quelque chose, c'est peut-être pas parfait, mais il y a quand même quelque chose d'autre. Et ça permet aussi de parler d'être plus intersectionnel, de parler du racisme, de parler de la classe sociale, enfin de la libération des femmes avec tout ce qu'elles peuvent avoir d'autre sur leurs épaules comme structure et système d'oppression. Donc oui, ça interroge un peu tout ça.
Oui, et c'est Françoise Collin que j'ai citée dans l'édito, enfin pas cette phrase-là, mais qui disait le féminisme n'est pas le devenir homme des femmes, parce que si certaines féministes prenaient la libération, on en avait d'autres qui disaient soyons des hommes comme les autres, c'est peut-être Elisabeth Badinter, ou... mais le devenir autre des femmes et des hommes, c'était plus ou moins quelque chose comme ça. Et ça traverse tout le numéro, ce monde commun, c'est un monde qui nécessitera de faire la révolution. Alors d'autres parlent de transformation, de modification en profondeur, mais ça impose de renverser totalement les structures sociales, de changer d'étalon, comme tu le disais. Alors la question aussi, c'est en termes de politique sociale et politique publique, quel étalon on prend ? Là, il faudrait peut-être aller voir du côté de Belloux, hein, de prendre une femme à la croisée de tous les rapports de domination, peut-être une femme sur ce fameux plancher collant qu'on abordait. Et c'est, j'apprécie ce que Camille dit, que ça questionne aussi l'égalité, hein, qu'on ne veut pas d'une égalité dans la domination. Et Réjeanne Sénac, une politiste française qui ouvre le magazine, elle dit un truc... que je trouve très beau, elle parle d'une société, donc pareil, hein, dans une idée de transformation de la société, d'une société où des personnes, que ce soit des femmes ou, en tout cas des personnes qui pourront, peu importe leur sexe ou leur origine ethnoculturelle, donc elle fait référence à la diversité, je mets des guillemets, et à la parité, je mets aussi des guillemets, que ces personnes puissent exprimer leur singularité dans une société solidaire, et exprimer sa singularité, c'est ça. Ça n'est pas faire comme les hommes, adopter les codes des hommes, qui est un piège qu'on peut parfois retrouver dans les quotas, où on demande à des personnes de jouer à, elle dit un peu de performer leur... ce qui est considéré comme une faiblesse, performer leur genre, performer leur origine, être la femme marocaine qui a réussi, c'est pas ça l'émancipation, c'est pas ça la libération, pas celle qu'on veut.
Je propose de faire une pause musicale et puis d'aborder justement les différents articles qui évoquent ce monde commun à mettre en place. Et on va écouter Une sorcière comme les autres. Et c'est Anne Sylvestre et Pauline Julien.
Je m'appelle du nom de la première sorcière brûlée en 1258.
Je m'appelle du nom des 7 millions de sorcières brûlées vives. Jusqu'en 1782.
Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières.
Je m'appelle Pauline Julien.
Je m'appelle Anne Sylvestre.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet. Soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois.
J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. moi je ne peux plus bouger.
Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant.
Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour.
Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort.
Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur.
Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison.
J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons.
Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant.
Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans.
Ce n'est que moi.
C'est elle ou moi.
Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie.
C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux.
Et c'est mon cœur
ou bien le leur.
Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue.
Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard.
Et c'est ma mère
ou la vôtre.
Une sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà.
Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante.
Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez.
Vous m'avez aimée putain et couverte de satin.
Vous m'avez fait de statue et toujours je me suis tue.
Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église, toute lente dessous.
Ce n'est que moi.
C'est elle ou moi.
Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat.
C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton.
Et c'est mon cœur
ou bien le leur.
Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts.
Celle qui danse et qui en meurt, fille d'asphalte ou fille fleur.
Et c'est ma mère
ou la vôtre.
Une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous y rêvez depuis longtemps, libre et fort comme le vent.
Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant.
J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux.
J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière.
J'étais le seul sous vos pas, et je ne le savais pas.
Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus.
Le sol se rompant découvre des richesses inconnues.
La mer à son tour divague, de violence inemployée.
Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyée.
Ce n'est que moi.
C'est elle ou moi.
Et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui cède ou se défend.
C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour, de combat.
Et c'est mon cœur
ou bien le leur.
Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend.
Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel.
Et c'est ma mère
ou la vôtre.
Une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît,
s'il vous plaît, faites-vous léger.
Moi, je ne peux plus bouger.
Voilà, c'était donc... Sylvestre et Pauline Julien avec Une sorcière comme les autres, une très belle version de cette chanson. Nous sommes toujours dans les promesses de l'aube avec Manon Legrand et Camille Wernars pour ce, fa- fa- super hors-série du magazine Axel. C'est le matin aussi, un peu moins pour moi. Et donc, en fin de dossier, il y a toute une série d'articles qui met en avant justement la question à la fois, d'une part, de tous ces antiféminismes qui émergent un peu partout et de multiples manières, et de la question des alliés, justement, comment être un bon allié quand on est un homme cis, quand on est comment être un ou une bonne alliée aussi de manière générale pour les luttes. Et voilà. Donc comment vous avez construit cette partie-là du dossier, et justement comment aborder cette question des antiféminismes, des masculinistes, et de dire oui, mais pas tous les hommes ne sont comme ça, et donc comment justement être un bon allié.
Oui, il y avait au début l'idée évidente qu'on ne devait pas passer à côté du backlash, hein, pour affûter un petit peu nos armes et résister à cette déferlante anti-féministe aussi, qui a toujours existé, mais qui semble parfois prendre plus d'ampleur aujourd'hui. Je ne sais pas, Camille, si t'es d'accord avec ça, mais les masculinistes semblent un petit peu revenir en force. Ils sont apparus dans les années 80, mais on sent une certaine montée en puissance.
J'ai l'impression que comme MeToo, par exemple, nous a permis d'être plus entendables via les réseaux sociaux, pour l'instant, il y a un mouvement aussi sur les réseaux sociaux, et ça peut être le backlash, le retour de bâton. Donc les masculinistes vont peut-être utiliser nos armes, qui étaient les réseaux sociaux, parce que les femmes se sont exprimées via les réseaux sociaux dans le mouvement MeToo, parce que c'est un endroit où elles pouvaient le faire. Et donc on a un peu l'impression qu'on utilise ces armes-là contre nous. Et donc on a tout un discours de « on ne peut plus rien dire, c'est que de l'humour, vous êtes des puritaines, vous ne comprenez rien, vous êtes bêtes en fait », qui est beaucoup plus entendable, qui reçoit, qui est bien partagé, qui est bien reçu aussi. Donc c'est vrai que le backlash, il est présent, dans la société aussi, hein, c'est pas que sur les réseaux sociaux évidemment, puisque les réseaux sociaux c'est le reflet de la société, voilà. Mais moi j'ai l'impression que ça se passe aussi là maintenant pour l'instant, qu'il y a une espèce de retour de bâton sur les réseaux sociaux. On le voit aussi par le cyberharcèlement par exemple, toutes les femmes qui s'expriment, qu'elles soient militantes, qu'elles soient politiciennes, qu'elles soient journalistes, qui s'expriment publiquement, elles peuvent se prendre un retour de bâton de cyberharcèlement où on va les insulter massivement juste parce qu'elles se sont exprimées sur un sujet, quoi. Donc voilà, il y a des choses qui se passent effectivement en ce moment qui sont à regarder et à étudier et à analyser. Donc c'est intéressant, je pense que ça va être un enjeu effectivement pour les prochaines années.
Oui, et juste pour préciser les termes, donc le masculinisme dont parlait Camille, c'est une forme d'antiféminisme. L'antiféminisme se conjugue au pluriel parce qu'il y a autant d'anti-féminisme qu'il n'y a de féminisme, hein. Il y a des bons antiféminismes qui se doublent de racisme et de white supremacy, etc. Le masculinisme, ça désigne quelque chose de plus précis. C'est né dans les années 80, notamment au Québec, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment pensé comme un mouvement social de défense des droits des hommes, notamment des droits des pères. On a vu des pères, par exemple, monter sur les grues pour revendiquer la garde exclusive de leur enfant. Ça a été soutenu par des mouvements masculinistes. Et l'idée, donc, c'est qu'ils estiment qu'ils perdent des droits à mesure que les femmes en gagnent, sauf qu'en fait, les femmes, quand les femmes gagnent des droits, elles n'en prennent pas aux hommes, hein, et qu'en général, quand les femmes se battent pour des droits, c'est bénéfique aux hommes et à tout le monde. Mais voilà, donc ça, c'est le masculinisme. Et c'est dangereux parce que c'est pensé en symétrisation par rapport au féminisme. Donc ils oblitèrent le anti, et donc ça peut les faire un peu passer pour des gentils. Autre chose aussi que je voulais dire sur les antiféminismes, oui, c'est que ça n'épargne, c'est présent partout, à gauche comme à droite. C'est pas non plus le monopole des hommes, hein. Il faut aussi malheureusement le souligner. Il y a eu un super bouquin de Manon Garcia sur le sujet dont on parle pas dans le hors série, mais pour expliquer ça, que il est parfois plus facile de pour les femmes de se soumettre à la norme masculine, au pouvoir masculin, pour éviter les emmerdes dont Camille vient de parler, pour éviter le retour de bâton, pour éviter ça peut aller loin, hein, la souffrance que c'est d'être féministe et de défendre ses idées. Et donc ces antiféministes sont partout et ils sont parfois bien cachés, d'où l'article Les bonnes planques de l'antiféminisme, qui est assez effrayant. Et cet article est né notamment de la victoire du Vlaams Belang, hein, avec cette ombre brune menaçante sur les droits des femmes. Et en fait, le Vlaams Belang, dans son programme, défend par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, hein. Mais une égalité qui en fait sert juste de prétexte pour critiquer l'islam. Donc ça, c'est une façon de se masquer en fait derrière, avec des lunettes égalitaires. En fait, on fait passer des pires choses. Et puis il y a d'autres bonnes planques. Il y a par exemple ce que Véronique Laurent, l'autrice de cet article, appelle les masculins lycées. Donc c'est des hommes qu'on sait masculinistes, par exemple Yvon Dallaire, un psychologue, et non, on le présente comme le spécialiste canadien des relations de couple. On l'invite à des conférences et il vient nous raconter, en essentialisant totalement les femmes, comment c'est d'être en couple aujourd'hui, où les femmes, bien sûr, doivent être soumises, enjointes à respecter la nature. C'est autorisé. Puis elle revient aussi sur tous les boys clubs, on en a beaucoup parlé, hein, notamment dans le monde médiatique, en questionnant le antiféminisme. C'est certainement pas tous les boys clubs ne se proclament pas anti-féministes, mais en fait c'est des hommes qui se retrouvent ensemble, qui reproduit une vision sociale inégalitaire des sexes et du coup une hiérarchie entre les femmes et les hommes. Donc c'est aussi à interroger. Je cherche encore une autre bonne planque, oui, hein, qui n'épargne pas les mouvements progressistes de gauche, il faut le savoir aussi, qui peuvent très bien mener une lutte anticapitaliste absolument extraordinaire ne pas comprendre que des femmes de cette lutte veulent se retrouver par exemple en non-mixité. On l'avait vu avec Nuit Debout en France, où il y avait eu des insultes sexistes incroyables lors d'une assemblée non mixte de femmes. Voilà.
Et pour faire le contrepoint des antiféministes, justement, ou des masculinistes, il y a aussi tous ces hommes qui veulent être des alliés et qui sont généralement plutôt de bonne foi aussi, mais qui parfois sont... maladroit ou contribue à renforcer parfois certaines inégalités. Est-ce que justement par rapport à la non-mixité, est-ce que cette transformation de la société passera justement par ces bons alliés aussi?
Oui. Oui, donc en effet, il n'y a pas que des hommes antiféministes, il y a aussi des pro-féministes. On les appelle aussi les alliés. Francis Dupuy-Déry, lui, qui est interviewé dans ce hors-série, Francis Dupuy-Déry, qui est spécialiste des masculinismes et des masculinités, lui dit pro-féminisme. J'ai déjà aussi entendu anti-patriarcaux. Bref, des hommes alliés. Ça, c'est le terme qu'a choisi Laurence Stevling, auteur de ce papier qui s'appelle « Être un bon allié, c'est un processus, pas un état ». Qui dit processus dit remise en question, réflexion, et c'est pas si vite gagné d'être un homme allié. Elle fait parler pas mal d'hommes qui ont participé à des ateliers de réflexion justement sur c'est quoi être un allié dans le cadre d'ateliers organisés par le Poisson sans bicyclette, un café féministe à Scarbeck. Elle interroge aussi des hommes qui ont participé à la grève du 8 mars l'an dernier. Et à travers tous ces témoignages, on se rend compte de... Bah, qu'il y a des hommes quand même qui veulent soutenir la lutte féministe, c'est une bonne nouvelle. Et puis Laurence, elle met aussi en lumière quelques balises à garder en tête. Par exemple, ne pas respecter la non-mixité, entre femmes, ne pas parler à la place des femmes, ne pas croire si vite qu'on est... Qu'on se déconstruit si vite, ça prend du temps de déconstruire ses privilèges et son pouvoir, puis c'est pas très confortable. C'est surtout des hommes qui s'expriment avec une piste intéressante qui est en fait je sais plus quel homme dit ça, mais que c'est entre hommes aussi qui doivent faire du boulot, quoi, également en non-mixité, et qui doivent dire à leurs amis, à leurs frères, qu'ils abusent de leur pouvoir. Je trouve la piste intéressante. Camille, toi qui es militante, comment ça se vit peut-être au quotidien ?
Ça, je pense que le patriarcat repose sur la solidarité masculine et la rivalité féminine, le fait de mettre les femmes en concurrence à plein d'endroits, le cliché des femmes qui se crêpent le chignon. Et la solidarité masculine, c'est vraiment là aussi que ça peut se jouer. La casser, en fait, mais c'est aux hommes de la casser, parce qu'il y a plein de choses qui se passent quand les femmes sont pas là, dans une non-mixité qui, elle, n'est pas questionnée. C'est les boys club, donc quand les hommes sont entre eux à plein d'endroits, ça c'est considéré comme normal, c'est pas une non-mixité militante, c'est la norme, en fait. Et donc là aussi c'est intéressant quand il y a des phrases sexistes, quand il y a des choses sexistes qui se passent, que les hommes réagissent, parce que cette solidarité masculine, elle est vraiment à questionner aussi en patriarcat.
Il reste une minute et on va devoir rendre l'antenne en une minute. Que dire ? À part courir dans les bonnes librairies et à Vie Féminine, vous procurez ce hors-série.
J'avais pris un bouquin dans mon sac et je pense que ça va faire une minute tout juste sur une phrase que je n'ai pas pu mettre dans ce hors-série, mais ce n'est pas grave, on va la lire ici. C'est dans un bouquin qui s'appelle « Les faiseuses d'histoire » et ce hors-série... est plein d'histoires qu'on a écrit avec tout notre cœur, cette Vinciane Després et Isabelle Stengers. Et elles disent « Ne jamais oublier que ce monde oblige à lutter, que rien n'y est normal, et ne jamais arrêter de penser ensemble, de cultiver l'insoumission, y compris à nos propres évidences, les unes avec les autres, par les autres et grâce aux autres. N'est-ce pas d'ailleurs le sens même de cette aventure sans cesse à reprendre qu'est le féminisme ?» Bonne journée.
Merci beaucoup à toutes les deux et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Et merci beaucoup.